En route pour une escapade dans la région lilloise. Nous sommes entre Roubaix, Basquehal, M et Villeneuve-d'Ascq, dans la ville de Croix. Une ville cossue. En 2022, le quartier de Beaumont à Croix reste un lieu où il fait bon vivre. Partons à la découverte de l'une de ces villas. Partons à la découverte d'un château moderne, d'une demeure pour familles nombreuses vivant en 1934. Pénétrons dans l'infinie perfection du travail de l'architecte Robert Mallet Stevens. Partons déambuler dans la villa Cavre. Dans son recueil, Une demeure 1934, Robert Mallet Stevens résume ainsi son programme. Air, lumière, travail, sport, hygiène, confort, actualité. Nous sommes à Croix, dans le quartier de Beaumont, qui réunit aujourd'hui 560 maisons, villas et châteaux. Ces demeures sont bien plus nombreuses qu'en 1934, mais elles continuent de rivaliser par leur taille, leurs finitions architecturales, la beauté de leurs jardins. L'une d'entre elles reste pourtant atypique, hors norme. Nous arrivons par une belle route ombragée aux chatoyantes couleurs d'automne. Nous nous arrêtons au 60 avenue Kennedy. Nous pénétrons par la villa du gardien, qui accueille aujourd'hui, tout en préservant les installations des décors d'origine, la librairie boutique de ce monument national. Nous découvrons maintenant la partie nord des extérieurs. L'espace devant la maison est occupé par un disque de pelouse, cerné par un étroit chemin de gravier qui vient s'inscrire en contrebas d'une allée circulaire plus large, elle aussi en gravier. Cette allée circulaire, cette boucle, semble constituée comme un circuit de petite taille. Elle est destinée à accueillir le balai des voitures des propriétaires du lieu, Paul et Lucie Cavrois, et de leurs invités. Il est ainsi aisé de déposer les passagers devant la maison, sous le porche, avant que les autos ne regagnent un garage ou ne fassent demi-tour avec élégance. L'accès à la villa est comme théâtralisé. Nous aussi, nous avançons vers l'entrée de cette villa. Les graviers du chemin, qui sont dans les mêmes tons que la maison, crissent sous nos pas. Nous commençons à prendre la mesure de cette demeure de briques beige qui nous frappe par la pure géométrie de ses volumes, par ses formes quadrangulaires qui semblent se décliner à l'infini. Un auvent rectangulaire s'appuie sur deux fines colonnes. Elles semblent fragiles. Très ensaillies de la façade, cette avancée plane marque avec une netteté presque ostentatoire le seuil de la villa. Une porte de verre, rythmée par des montants métalliques rectangulaires, vient s'intégrer dans le mur de briques, qui s'incurve avec douceur pour mieux l'accueillir. Pour mieux nous accueillir nous aussi, pour nous inviter à pénétrer dans ce château moderne. Nous franchissons le seuil. Nous sommes dans le vestibule. Souvenons-nous. Air, lumière, travail, sport, hygiène, confort, actualité. Là encore, dans ce vestibule, l'horizontalité domine. Mais nous avons quitté le monde coloré de l'extérieur pour plonger dans un lieu où règne le noir et blanc. Hygiène, modernité. Pour l'heure, attardons-nous un instant sur le rythme imposé par la volée de marche en marbre blanc de Carrare et leur contre-marche en marbre noir de Belgique, richesse des matériaux. Attardons-nous sur le rythme imposé par les caches radiateurs constituées de larges bandes horizontales en inox chromé qui viennent s'arrondir avec douceur sur les côtés pour se fixer au mur. La pureté des lignes de ces caches radiateurs et leurs reflets répondent aux appliques en cerceau et en inox chromé de Jacques Chevalier, qui elles-mêmes répondent aux formes ovales des jardinières de marbre disposées de part et d'autre de la volée de marche. Imaginons un instant, à la nuit tombée, la sophistication des effets de lumière engendrés par ces appliques. Le jeu d'ombre structuré qui se dessine sur les murs, complété par la lumière douce diffusée par les sphères en opaline du plafond, un véritable enchantement. À la nuit tombée, il y a aussi ces deux grands panneaux blancs, rectangulaires, en verre dépoli, rythmés de lignes horizontales en acier, qui s'éclairent. Ce sont des boîtes à lumière. Ces deux grands panneaux encadrent comme un écran noir qui n'est autre qu'une porte à double battant, de taille relativement modeste, en bois laqué noir. Elle est fermée. Toutes ces lignes horizontales du vestibule, celles de la porte d'entrée, celles des contre-marches, celles des boîtes à lumière, se répondent et créent des effets d'architecture insoupçonnés. Des boîtes à lumière, comme au cinéma? Oui. Au début de sa carrière, Robert Mallet-Stevens participe à une vingtaine de décors de films, et notamment, en 1926, au film muet « Le Vertige » de Marcel Lherbier, pour lequel Sonia et Robert Delaunay participent respectivement aux costumes et aux décors. Pour cette entrée de la Villa Cavrois, où nous sommes actuellement, Robert Mallet-Stevens reprend un certain nombre d'éléments du décor qu'il avait pensé pour ce film, et notamment ces boîtes à lumière, qui mettent en scène les hôtes et les convives, qui les soient un humble vestibule d'une ambiance sereine. L'architecte Richard Klein nous donne son point de vue sur la façon de travailler de Robert Mallet-Stevens. Je le cite. « Finalement, il n'y a pas une grande dissociation entre la fonction du décor au cinéma et puis son architecture, les espaces tels qu'il les conçoit. Les boîtes à lumière sont là pour dramatiser, mettre en scène un personnage particulier, qualifié comme étant quelqu'un de moderne, associé à la lumière électrique, quelque chose de ce type. » Richard Klein évoque ici le propriétaire du lieu, Paul Cavrois. La double porte s'ouvre, demeure pour une famille nombreuse, demeure pour une famille vivant en 1934, air, lumière, travail, sport, hygiène, confort, actualité. Une pièce immense, gorgée de lumière, d'espace et de nature, s'offre à nous. Nous sommes dans le hall-salon. Les grandes baies au midi nous offrent à voir le vaste parc. Il s'étendait à l'origine sur 5 hectares. Les grandes baies au midi nous offrent à voir un miroir d'eau rectangulaire, long de 72 mètres. Il s'allonge presque indéfiniment et perpendiculairement à la maison. Il structure le parc, dessiné par Robert Mallet-Stevens. Ce miroir d'eau en est le point d'équilibre. Mais avant d'aller déambuler dans ce parc, revenons un moment dans le hall-salon. Nous sommes dans cette pièce de 90 mètres carrés, 6,50 mètres de hauteur sous plafond. Nous sommes plongés dans un camaïeu de verre qui anime murs, fauteuils et motifs linéaires du tapis. Un camaïeu de verre qui fait écho à la végétation. Un camaïeu de verre qui se poursuit dans des nuances différentes dans la salle à manger, dans des tons plus grisés, donnés par le marbre vert de Suède qui habille cette autre pièce. Un camaïeu de verre qui peut être interprété comme une citation du travail de l'architecte autrichien avant-gardiste Joseph Hoffmann et de la demeure qu'il conçut en 1905 à Bruxelles, le palais Stockley, demeure qui avait frappé Mallet-Stevens pour son luxe et sa solennité. Nous sommes donc dans cette pièce, au volume inhabituel, exceptionnel. Nous pourrions en être impressionnés. Pourtant, le sentiment qui domine est l'envie de se poser là, de profiter de cet espace serein, intégré à la nature. Le mobilier sobre nous invite à nous asseoir pour profiter de ce moment suspendu. Imaginons. Nous sommes maintenant confortablement installés dans l'un de ces fauteuils posés sur le vaste tapis central. Un tapis épais, moelleux, sur lequel se dessine sur un fond écru, avec équilibre et élégance, un jeu de lignes et de formes quadrangulaires dans des tons crème, vert, mais aussi çà et là des rectangles, dans un rouge bordeaux qui vient mettre en valeur les nuances de vert et apporter de la chaleur à la pièce. Ce tapis est posé lui-même sur un parquet d'un brun sombre et chaud, en iroko d'Afrique occidentale. Il s'agit d'un parquet mosaïque Noël, très en vogue dans les années 1920-1930, d'une grande solidité scellée au ciment magnésien. Les lames courtes sont disposées parallèlement pour créer des motifs de carrés, eux-mêmes disposés perpendiculairement les uns les autres, créant ainsi un motif régulier et géométrique, un motif de damier. Quand nous observons la pièce autour de nous, nous nous apercevons que nous ne sommes pas dans un volume simple, nous ne sommes pas dans un cube. L'espace est en fait scandé par des structures qui animent le lieu. Sur notre gauche, un demi-cylindre descend du plafond. Il est comme découpé en partie basse pour créer un espace circulaire, lui-même bas de plafond. Pour abriter, pourrions-nous dire, des banquettes intégrées autour d'un coin feu. Ce lieu circulaire est habillé de plaques de marbre jaune de Sienne, dont les veines s'animent au gré de la lumière qui entre à foison dans ce hall salon. En face de cette cheminée, sur notre droite, le plafond descend très bas également, pour souligner cette fois un espace quadrangulaire. Cet espace s'articule autour de la vaste porte coulissante donnant accès à la salle à manger. Elle est justement ouverte et son panneau de bois se glisse sur la gauche, constituant comme un fond à cette alcôve. Alcôve qui abrite une longue banquette et une desserte d'angle. Ce divan vient se loger dans cette partie rendue plus intime, plus à l'abri de la lumière. Il nous invite peut-être à la lecture, au repos. De l'autre côté de l'encadrement de porte qui conduit à la salle à manger et qui est souligné d'inox, un espace bureau s'articule dans l'angle. Intrigués, nous levons la tête. Trois cercles noirs ponctuent le mur vert qui descend au-dessus de ces espaces que nous venons de décrire. Aujourd'hui, il reste muet. En 1934, il diffusait les voix et les musiques de la TSF. En 1934 également, nous pouvions entendre les voix et les rires des enfants cavrois lorsqu'ils circulaient à l'étage, puisque, en hauteur, un passage surplombe une partie du salon. Nous-mêmes nous l'emprunterons quand nous passerons de l'aile des parents à celle des enfants, et nous pourrons ainsi avoir une vue plongeante sur ce lieu de vie à la fois accueillant et ouvert sur l'extérieur, où nous sommes actuellement confortablement installés. La spatialité de ce hall-salon, apparemment simple au premier regard, est donc, vous l'aurez compris, extrêmement réfléchie, complexe. Cette capacité à créer des volumes casse la monotonie, engendre une nouvelle forme d'habitation. Cette spatialité offre des jeux d'ombre et de lumière, des perspectives différentes, des espaces de vie variés où chacun peut trouver sa place. Pour Robert Mallet Stevens, l'architecture est au service d'un espace habité, fonctionnel et confortable. Et maintenant, si l'on parlait mobilier. Là encore, ce n'est pas du tout un détail, c'est un vrai sujet. C'est un élément capital qui participe à cette œuvre d'art totale. Le projet de la Villa Cavrois débute en 1929 et le 15 mai de cette même année 1929 se constitue l'Union des artistes modernes. Robert Mallet Stevens en est l'un des fondateurs. L'UAM incarnait alors la modernité française au XXe siècle. Elle a bénéficié récemment, en 2018 à Beaubourg, d'une importante rétrospective. Cette union des artistes modernes rassemblait les grands noms et avait pour ambition de proposer un nouvel art de vivre en associant art et industrie dans la conception des meubles et des objets. Autour du premier comité directeur, constitué par Robert Mallet Stevens, Francis Jourdain, René Herbst, Hélène Henry et Raymond Templier, plusieurs dizaines de personnalités, parmi lesquelles Sonia Delaunay, Fernand Léger, Jean Prouvé, Le Corbusier, Charlotte Perriand, se retrouvent unis par un même idéal, s'entêter à créer, sans regarder en arrière. Le mobilier de la Villa Cavrois, conçu à l'époque par Robert Mallet Stevens, participe donc de cette volonté. Il s'agit d'un mobilier qui s'intègre parfaitement à l'architecture. Il diffère en fonction des pièces. Il diffère en fonction des destinataires, maîtres, enfants, domestiques. Robert Malley-Stevens dit lui-même qu'il était animé par le désir de mettre en évidence les caractères de monsieur, madame, ou encore celui des jeunes hommes et des jeunes filles. Je ne vous l'ai pas encore dit, mais c'est une famille avec 7 enfants qui vit ici à Croix. L'architecte Richard Klein nous dit « Dans l'ensemble de la maison, le mobilier, les couleurs utilisées, les détails architecturaux, finalement, qualifient d'une certaine manière les occupants. Le mobilier donc, plus ou moins sophistiqué, plus ou moins coloré, toujours fonctionnel, est une pièce maîtresse de l'architecture. Le fauteuil dans lequel nous sommes assis, le mobilier savamment disposé devant nous, est ici, dans ce hall-salon, en noyer. J'ai déjà évoqué les banquettes du coin cheminée, l'ensemble bureau à droite de la porte coulissante qui s'ouvre sur la salle à manger, et sur l'immense tapis central où nous sommes installés depuis notre arrivée, nous pouvons admirer des chaises en noyer également, au piétement tubulaire, encadrant une table carrée. Les lignes de ces sièges sont simples, géométriques, mais l'épaisseur de leur assise, dossier et accoudoir laisse à penser qu'ils sont très confortables. La table, quant à elle, est à double plateau, ce qui donne une impression de plus grande légèreté. Tous ces meubles, sobres, d'apparence relativement modeste, ne détournent donc en rien notre attention de l'essentiel, à savoir l'espace architectural. Au contraire, ils participent à le structurer. Ces meubles font corps avec l'architecture. Leur état de conservation parfait nous conduit à nous interroger. Sommes-nous véritablement en présence des meubles conçus par Robert Malley-Stevens et disposés là pour l'inauguration de la villa qui eut lieu en 1932. Le 6 juillet 1932, pour être plus précise, jour des noces de l'une des filles de la famille, Geneviève Cavrois, avec Pierre Six. Jour où un avion survola la propriété pour lâcher des milliers de fleurs comme une bénédiction colorée. Sommes-nous donc devant les meubles d'origine ? C'est une longue histoire. En quelques mots, en 1985, Lucie Cavrois décède à l'âge de 95 ans. 2 ans plus tard, en 1987, les meubles sont dispersés et la villa entre dans une période noire de son histoire. Vendue à un spéculateur immobilier, la villa est vidée, vandalisée, pillée, les sols et les murs ravagés, les fenêtres brisées, le grand escalier de marbre de Carrare défoncé. Elle devient une silhouette décharnée, une carcasse dépecée. Cette véritable descente aux enfers prend fin en 2001, date de son rachat par l'État. Elle est alors dans un état apocalyptique. La villa va bénéficier d'une procédure d'exception. Des travaux monumentaux de restauration, réhabilitation, voire même de recréation, sont entrepris. Ils dureront une douzaine d'années pour s'achever en 2015. 230 ouvriers, 18 corps de métier, 23 millions d'euros sont investis. C'est colossal. Parallèlement, à partir de 2009, le Centre des Monuments Nationaux se lance dans une campagne de rachat de mobilier auprès des collectionneurs, des galeries. Il préempte dans les ventes publiques. Certains meubles d'origine sont donc de retour dans la villa, restaurés, mais d'autres sont à refaire. Les sources sont rares. Robert Malley-Stevens a demandé qu'à sa mort soient détruites toutes ses archives. Plans et relevés furent brûlés selon sa volonté en février 1945. Pour ces reconstitutions, les artisans sont donc partis des photographies prises de la maison en 1932 et 1986. Et ils essayent de s'approcher au plus près de ces témoignages. Ils opèrent par déduction, en étudiant les matériaux utilisés par Robert Malley-Stevens, les modes de fabrication, d'assemblage. Ils élaborent des maquettes à grandeur, prennent de nouvelles photos sous les mêmes angles que celles prises dans les années 1932 et 1986, et cherchent à atteindre la superposition exacte de ces photos. Le processus est aussi complexe que passionnant. Les artisans respectent les proportions, utilisent les mêmes colles, les mêmes supports, les mêmes types de plaquage, d'assemblage. Ils travaillent avec le même degré de précision pour les finitions. Un des fils conducteurs de cette réhabilitation qui prend souvent des allures de recréation, et de bannir les procédés anachroniques. Vous commencez maintenant à connaître Robert Mallet Stevens et vous vous en doutez que si la pensée, jusqu'à la forme et aux matériaux et au positionnement des poignées de porte et des interrupteurs, il n'aura pas négligé un autre sujet capital en architecture, à savoir la lumière. D'ailleurs, en 1928, dans la revue Luxe, il affirme « Sans lumière, il n'est pas de vie possible ». Le jour, le soleil entre dans la villa, les éléments chromés brillent, le marbre s'anime de subtiles variations. Le soir venu, la lumière devient matière flottante, calme, reposante. Pour cela, Robert Mallet Stevens fait appel à un orfèvre en la matière, André Salomon. L'essentiel de l'éclairage est travaillé en indirect. Afin de dissimuler les sources lumineuses, André Salomon les positionne sur des rails ou des supports en hauteur. Les lumières projetées retombent vers la pièce. Grâce à un réflecteur intégré au plafond, l'éclairage indirect joue avec l'espace. Il offre une perception apaisée de cet espace. Robert Mallet Stevens recherche donc la modernité dans tous les domaines et il sait s'entourer. Il parle ainsi de ses collaborateurs. Dès la fin des années 20, il n'est plus question de collaboration d'artistes. Les collaborateurs sont des techniciens dans les nouvelles formes et les nouvelles techniques. Pour synthétiser, Robert Mallet Stevens allie matières traditionnelles et matériaux industriels produits par la mécanisation. Il joue avec la simplicité des volumes pour créer un espace complexe et accueillant. Il conjugue la diversité des formes avec élégance, en veillant à ce qu'elles soient toujours adaptées à l'usage de l'objet. Il invente des solutions afin de définir un cadre de vie ancré dans la tradition bourgeoise, mais adapté aux tendances plus récentes et marqué par l'empreinte des avant-gardes européennes. Et si nous sortions prendre l'air sur la terrasse, un grand escalier nous invite à descendre dans le parc. Mais avant de l'emprunter, nous découvrons en contrebas sur notre gauche une piscine, ou plutôt devrais-je dire un bassin de natation, de 27 mètres de long sur 4 mètres de large. Avec la gymnastique, la natation est, durant l'entre-deux-guerres, un sport extrêmement valorisé. Air, lumière, travail, sport, hygiène, confort, actualité. Nous surplombons donc un véritable bassin sportif. La longueur pouvait être ramenée à 25 mètres, un demi-bassin olympique. L'eau n'était pas chauffée. Côté ouest, un double plongeoir. Le premier se situe au niveau de la terrasse. Le plongeoir supérieur arrive au niveau le plus haut du muret du grand escalier. Le décroché dans ce muret permet d'ailleurs d'accéder facilement à ces plongeoirs. La profondeur de la piscine était de ce côté-là de 2,80 m. Aujourd'hui, elle a été comblée pour des raisons de sécurité, mais une fine couche d'eau nous permet de visualiser ce qu'elle était du temps de la famille Cavrois. Christine Jouret, l'une des petites filles de Paul Cavrois, confie avoir passé de longues heures sur le plongeoir le plus haut, sans avoir jamais osé plonger. Côté est, un petit plongeoir dissimule le système d'arrivée d'eau, technique modernité. Mais poursuivons et descendons le grand escalier tout en découvrant le parc, dont la composition et l'esprit sont également l'œuvre de Mallet Stevens. Sa restauration en 2012-2013, menée par la paysagiste Aline Lecoeur, sous la direction des Monuments Nationaux et de l'architecte en chef des Monuments Historiques, Michel Goutal, fut complexe, elle aussi. Après avoir fait des sondages pour retrouver le dessin très géométrique des allées étroites qui multiplient les points de vue et les perspectives de la maison, il a fallu mettre en œuvre les bordurations en métal, l'engazonnement. Profitons de cette déambulation dans le parc pour évoquer la première rencontre de Paul Cavrois et Mallet Stevens et la naissance du projet. Ce chef-d'œuvre est véritablement le fruit d'une grande entente entre cet architecte et cette famille, comme en atteste la dédicace de Robert Mallet Stevens lui-même, adressée en 1934. La voici. À Madame et Monsieur Cavrois, qui m'ont permis, grâce à leur clairvoyance, leur mépris de la routine et leur enthousiasme, de réaliser cette demeure avec toute ma gratitude et la fidélité de mon amitié. Essayons d'en découvrir un peu plus long sur cette histoire. Des témoignages des petits-enfants nous en font revivre des bribes. Nous sommes dans les années 1920 et en matière de textile, l'usine Cavrois-Mahieu, rue Montgolfier, tient le haut du pavé à Roubaix. Roubaix, la ville aux mille cheminées, alors capitale mondiale du tissage et de la laine. Marcel Eckett, contremaître embauché le 15 décembre 1947, témoigne. On faisait toujours du tissu, mais extra. Le tissu Cavrois, fallait la qualité. Fallait surtout la vraie laine. On leur mettait pas n'importe quoi. Ça, c'était urgent. Même nous, quand on travaillait, on pouvait pas avoir de tissu. C'était réservé pour telle clientèle, et toujours comme ça. Monsieur Paul, c'était un général, si on peut dire. En 1923, les filatures comptent 700 ouvriers. L'usine Cavrois-Mahieu fournit les grandes maisons parisiennes. Et Christophe Cavrois, petit-fils de Paul et Lucie, de nous raconter en évoquant son grand-père, ce grand monsieur, comme il l'appelle, il souhaitait avoir une maison de campagne à proximité de son usine de Montgolfier. Il souhaitait une très grande demeure afin d'accueillir sa famille nombreuse. Il était attaché aux valeurs familiales, aimait les belles choses, s'habillait chez Lanvin, appréciait les belles autos qu'il conduisait lui-même, même s'il avait un chauffeur. Il avait un souci total de l'esthétisme. C'était un perfectionniste. Bref, il convoque quelques architectes. On ne parlerait pas argent, mais projet d'architecture, poursuit son petit-fils. Celui qui devait l'emporter serait le projet le mieux adapté à son goût et des plus modernes, et qui le fascinerait le plus. En 1923, l'architecte Jacques Grébert livre un projet dans l'esprit manoir. Il s'agit d'une demeure en pierre et briques, de style anglo-normand aux ornements néo-médiévaux. Ce qui se faisait beaucoup à l'époque, à Beaumont. Ce projet est lancé, mais s'interrompt brutalement en 1925. Or, en 1925, se tient à Paris l'Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes. Cette exposition regroupe les pavillons des régions de France et des grandes nations invitées. Le pavillon des textiles roubaisiens est justement situé tout près d'une réalisation de Robert Mallet Stevens. À savoir le pavillon du tourisme avec son campanile emblématique, ses plans qui se recoupent et son bandeau vitré, ainsi que les arbres cubistes en ciment armé des frères Martel qui, soit dit en passant, défraient la chronique. Christine Jouret, petite fille de Paul Cavrois, nous dit que c'est sans doute lors de cette exposition que les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois. Il est probable que Paul ait ensuite eu l'opportunité de visiter la rue Mallet Stevens édifiée en 1927. L'entente entre les deux hommes est immédiate. Les plans sont élaborés en 1929. La période est difficile économiquement, vous vous en doutez. Pourtant, les travaux avancent. Les finitions sont achevées en 1932. Alliant air, lumière, travail, sport, hygiène, confort, actualité. Nous sommes donc dans le parc. La maison se reflète sur le miroir d'eau, ce miroir d'eau qui peut être interprété comme un hommage au classicisme, dans ce parc héritier des jardins réguliers du XVIIe siècle. Du point de vue où nous sommes, nous observons maintenant cette façade sud qui se déploie sur 60 mètres de longueur. Le jaune de ses briques vient contraster, trancher le bleu du ciel. C'est comme si l'architecte avait sculpté un bloc énorme. La belle villa, figée, statique, nous apparaît comme une véritable sculpture cubiste. Robert Mallet Stevens écrit lui-même « Un tel système constructif entraîne la disparition de tout décor appliqué. C'est la maison elle-même qui constituera le motif décoratif, comptant dans l'atmosphère par ses volumes et par ses formes, comme un beau morceau de sculpture. Rationalité, simplicité, clarté, efficacité sont ses maîtres mots. Ici donc devant nous se déploie un jeu de lignes épurées, horizontales et verticales. Les plans perpendiculaires viennent créer des volumes cubiques emboîtés. Les formes s'articulent les unes les autres, arêtes nettes, angles droits, participent à la logique géométrique de l'édifice. Toit-terrasse, décrochement, porte-à-faux viennent créer un dynamisme moderne, en totale rupture, avec le néo-régionalisme des rares maisons alentours. Vue du sud donc, cette villa pourrait être décrite comme un empilement de rectangles, le plus long étant celui du rez-de-chaussée. un rez-de-chaussée où se situent le vestibule et le salon où nous nous sommes arrêtés, mais aussi un rez-de-chaussée qui se situe en haut de l'escalier monumental que nous venons d'emprunter pour descendre dans le parc, car la maison, rappelons-le, est posée sur les hauteurs de Beaumont. Parcourons la façade sud du regard et attardons-nous sur le niveau des pièces de réception. Son rythme est donné par les fenêtres. Tout à gauche, deux baies vitrées de taille relativement modeste, celle de l'office, puis celle de la salle à manger des enfants. Poursuivons. Un grand bandeau vitré horizontal nous signale la salle à manger des parents. En hauteur, il est aligné avec les deux fenêtres précédentes. Mais sa longueur nous permet d'imaginer qu'il constitue véritablement un mur de verre pour cette pièce. Si vous êtes invité, mais que vous lui tournez le dos, ne vous inquiétez pas. Un miroir sur le mur d'en face, de toute la longueur de la table, vous permettra également de profiter de la vue sur le parc. Ce bandeau horizontal vitré est suivi à sa droite par la baie monumentale du salon, qui cette fois se déploie au centre de la maison, en toute verticalité, sur deux niveaux, sur 6 mètres de haut. C'est par là que nous sommes sortis pour emprunter le grand escalier qui nous a conduits dans le parc en contrebas. Continuons. Le moment est venu de signaler une ligne courbe, la seule de l'édifice. Elle dessine le belvédère, sorte de tour qui abrite la cage circulaire de l'escalier monumental. Lui aussi, entièrement vitré, offre de nouvelles vues magnifiques sur le parc. D'allure altière, le belvédère se voit de loin, constituant comme un phare signalant la villa dans le paysage. Nous pouvons imaginer Paul Cavrois, tel un capitaine de navire, dans cette pièce circulaire, au sommet de l'escalier, au sommet du beffroi, admirant par le bandeau vitré horizontal la vue sur la campagne environnante et les usines de Roubaix, dont la production assure la prospérité de la famille Cavrois. En partie basse de cette tour, de ce belvédère, le fumoir de l'homme d'affaires sert de passage vers son bureau aux boiseries en poirier naturel verni qui lui aussi ouvre largement sur le jardin. Plus à droite, deux autres fenêtres nous signalent les deux chambres de jeune homme. Devant cette partie de la maison, une terrasse surplombe le bassin de natation que nous avons évoqué tout à l'heure. Cette terrasse mesure 47 mètres de long sur 5,60 mètres de large. Et sa rambarde, faite de 3 lignes parallèles horizontales, s'allonge presque indéfiniment. Depuis le salon est bien au-delà des deux chambres de jeune homme. L'horizontalité des volumes et des lignes se poursuit donc largement à droite du belvédère. Au-dessus de cet étage, rythmé nous l'avons vu par les baies, un autre niveau. Il abrite sur la droite l'aile des parents, avec sa salle de bain monumentale de 60 mètres carrés, d'un blanc immaculé, au luxe antique pourrions-nous dire, avec son marbre de Carrare omniprésent, et puis avec son enfilade de fenêtres exposée plein est pour jouir du lever du soleil, avec sa douche monumentale, sa baignoire, son pèse-personne intégré, et ses 3 robinets, eau chaude, eau froide, eau adoucie. Air, lumière, travail, sport, hygiène, confort, actualité. Dans l'enfilade, la chambre des parents et le boudoir de madame. À gauche de la villa, au-dessus des salles à manger, se déroule dans une grande régularité la façade de l'aile des enfants et de leur gouvernante. Si l'on élève encore le regard, nous découvrons juste au-dessus une pergola en béton armé, prête à nous accueillir pour déjeuner, encore un nouveau point de vue. Les monte-plats arrivent directement de la cuisine. Air, lumière, travail, sport, hygiène, confort, actualité. Si nous pouvions attendre la nuit tombée, la façade prendrait vie grâce à l'éclairage d'André Salomon. Nous pourrions alors découvrir comme une guirlande étirée, dessinée par la lumière des globes de verre opalin dont les emplacements furent choisis, eux aussi, avec soin, pour créer symétrie et régularité. Nous avons évoqué le jeu des percements qui rythment les façades, qui en sont les seuls éléments décoratifs. Ces baies vitrées font pénétrer la lumière à foison dans cette architecture et pour ses occupants, elles viennent cadrer le paysage. Il est temps maintenant de nous arrêter sur la brique jaune que nous avons citée au fil de notre déambulation qui est partout et qui bien sûr joue un rôle capital. Robert Mallet-Stevens donne une véritable présence à tous les matériaux qu'il utilise sur le chantier. Lorsqu'il choisit la brique, ce n'est donc pas anodin, c'est même radical. Et cela contribuera sans doute au mépris avec lequel sera traitée la villa. En effet, la brique était jusqu'alors réservée aux habitations populaires et aux bâtiments industriels. Ici, Robert Malestevens choisit la brique pour construire l'unité visuelle de l'édifice, mais aussi pour sa dimension plastique, qu'elle acquiert au milieu des verts du jardin et du bleu du ciel. Toutes ces briques ont été fabriquées spécialement, à l'aide de 26 moules, calculés pour faire face à tous les besoins de surface du bâtiment. La brique standard mesure 21,8 cm sur 5,5 cm de large et 2,6 cm de haut. Ces briques sont assemblées avec des joints en retrait, horizontaux, peints en noir. Il pourrait être un écho au projet jamais réalisé de maisons zébrées en noir et blanc de Alfred Loos pour Joséphine Baker. Les joints verticaux, quant à eux, sont très étroits et peints en jaune safran, par conséquent presque invisibles. Ces détails sont là pour souligner le mouvement horizontal du bâtiment, qui pour son allure générale est marqué par l'influence de l'hôtel de ville d'Hilversum aux Pays-Bas. D'inspiration cubiste, cet édifice conçu par l'architecte Willem Marinus Dudok est emblématique de l'architecture moderne. L'influence est manifeste et avérée. Les liens de parenté avec la villa cavrois sont clairs, revêtement de briques, lignes perpendiculaires, beffroi. Nous savons d'ailleurs que Robert Malestevens, pour convaincre Paul Cavrois du projet, l'a emmené visiter cet hôtel de ville, ainsi que le palais Stoclet en Belgique, que nous avions évoqué en tout début de notre flânerie. Comment est perçue cette villa en 1932 par les habitants de Roubaix et de Croix? Assurément comme ostentatoire, majestueuse, imposante. Trop grande, trop avant-gardiste, trop moderne, trop en rupture de forme, trop en rupture du temps. Face à cette audace, certains se montrent curieux, intrigués, parfois abasourdis, souvent jaloux, envieux. Défiance, incompréhension et ignorance font couler des flots de mépris, reproches, critiques, rendus d'autant plus acerbes par l'époque profondément touchée par la crise de 1929. Les surnoms pleuvent. La folie cavrois, le péril jaune, le bateau cavrois, paquebot à la dérive, horreur. Jean-Jacques Ayagon analyse ce rejet comme l'expression de cette difficulté que nous avons à accepter l'innovation. Cette villa est pourtant un chef-d'œuvre. Elle est la troisième commande domestique conçue par Robert Malestevens après la villa du comte de Noailles à Hyères et la maison de Paul Poiret à Béziers. D'après l'architecte Richard Klein, elle est la troisième d'une trilogie, mais elle présente un état de complétude jamais atteint dans un format inégalé. Elle est un manifeste. Un manifeste pour le commanditaire, bien évidemment, qui s'inscrit en rupture avec son propre milieu social, pour l'architecte Robert Malestevens et pour l'Union des artistes modernes. Répertoriés au cadastre comme le château, ces éléments anticipent la vie future de la vie domestique et de l'architecture. Pour finir de nous en convaincre, relisons ensemble la synthèse que Robert Malestevens nous livre dans son recueil « Une demeure, 1934 ». Réalisation, grandes baies au midi pouvant s'ouvrir largement, grande surface vitrée donnant le maximum de clarté, éclairage indirect puissant pour la nuit, bureau, salle d'études permettant de travailler dans le calme, salle de jeu, grande piscine extérieure pour nager et plonger, nombreuses salles de bain, surface lavable, nettoyage par le vide, ventilation de tous les locaux suivant une hygiène complète, téléphone, heure électrique, TSF, chauffage central avec thermostat, ascenseur, procure un confort agréable. Matériaux simples, mis en œuvre avec un grand souci d'économie, c'est ainsi que fut exécuté le programme. Robert Malestevens a donc su ici exploiter nouveaux matériaux et nouvelles techniques de production pour construire une villa où il fait bon vivre pour cette grande famille qui comptait 7 enfants. Cette villa est un manifeste de l'article qu'il écrit en 1926 intitulé « Les raisons de l'architecture moderne ». Je le cite « L'architecture moderne n'est pas une mode. Avant tout, elle n'est pas décorative. Elle est utile et normale. L'architecture que nous ferons suivre du mot moderne est celle de notre époque, celle qui correspond à notre existence, qui essaie de répondre à notre idéal. Ce chef-d'œuvre de modernité a failli disparaître, victime d'années d'abandon et de pillage. Il fut sauvé grâce à une campagne de restauration sans précédent qui a exigé un véritable travail d'archéologie. Il a fallu fouiller les décombres, sonder ses entrailles, explorer les archives des fournisseurs de l'époque, concilier tous les savoir-faire pour retrouver la splendeur passée, pour restituer la perfection de cette œuvre d'art totale. Comme les 155 000 visiteurs par an qu'elle accueille, nous tombons sous le charme et nous pourrions nous surprendre à croire que ça n'a pas bougé depuis 1934. Ce podcast est la trace orale de notre déambulation du mois de novembre 2022 avec l'association Un regard pour toi qui soutient les déficients visuels. Pour accompagner notre visite, j'ai choisi des extraits du morceau King Porter's Tomb du pianiste Jelly Roll Morton. Une véritable leçon de swing version ragtime, très écoutée en France dans les années 1920-1930. Si vous souhaitez approfondir, un recueil, un livre-objet a été publié aux éditions du Patrimoine. Il vous propose la découverte du bout des doigts de la Villa Cavro. Les planches sont gravées sur un précieux papier japonais, pachika, dont le velouté et la mémoire permettent de garantir une qualité unique. Vous pourrez ainsi mieux appréhender les façades, la disposition des pièces, mais aussi les matériaux, briques, marbre, bois rare, sans oublier les végétaux d'un parc original. Un CD accompagne cette découverte. Voilà, n'hésitez pas. Ce recueil est absolument extraordinaire.